If you've ever dreamed of camping under the stars in Morocco, of hiking the Inca Trail to Machu Picchu, or tasting your way through Vietnam, then Intrepid has the trip for you. Travel with like-minded adventurers on a small group tour and be guided by locals who know all the best spots. Where will you go next? For over 1,000 trips to more than 100 countries, visit intrepidtravel.com. Intrepid. Good trips only.
I'm Lauren, and I study media production at Birmingham City University. I always wanted to turn my passion into a career, but I doubted whether I could really make it happen. At BCU, I found a supportive community who believe in me. I'm able to use state-of-the-art facilities to help me build my skills and even gain industry experience. Now, nothing seems out of reach. I am Lauren. I am BCU. Experience BCU for yourself at our next Open Day on Saturday the 23rd of March. Search BCU Open Day to book your place now.
C'est une phrase qu'on dit souvent en tant qu'enfant d'immigré, je trouve, oui, on n'a jamais manqué de rien. Mais parfois, j'ai l'impression que dans cette phrase-là, on se ment un peu à nous-mêmes, dans le sens où, alhamdoulilah, on a manqué de rien, on a toujours eu à manger, etc. Mais quand on a une famille nombreuse, qu'on a un papa qui vient du pays avec des frères et sœurs qu'il faut accompagner, quand on a un salaire pour pouvoir subvenir aux besoins de toutes ces personnes-là, oui, alhamdoulilah, on a manqué de rien dans le sens où on a toujours eu à manger sur la table, mais on est quand même sur un minimum du minimum qui peut faire naître des frustrations chez certaines personnes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'on soit un auteur auto-édité ou qu'on soit un auteur qui est édité par une maison d'édition, être auteur, c'est prendre la décision consciente que l'on va se brader. Et c'est un peu la dernière partie de ma conversation avec vous et répondre un peu à cette question. Est-ce qu'ouvrir un Patreon, ça a vraiment été une bonne décision?
Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincue du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission. Celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout, comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix et l'amour rayonnant d'Allah soient sur chacun et chacune d'entre vous. Je mets directement les pieds dans le plat. C'est à la fois une joie, comme d'habitude, de vous retrouver solo derrière mon micro, et c'est aussi un peu de stress. Ça a été un épisode difficile à enregistrer parce que je pense que le sujet fait que c'est difficile. Aujourd'hui, on va parler notamment d'argent, et je pense que c'est un sujet qui... Enfin, la difficulté que j'ai eue à enregistrer ce sujet en dit autant de ce thème que de moi et de mon rapport à ce thème. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Mais bon, malgré tout, alhamdoulilah, je suis très enthousiaste à l'idée de vous retrouver, donc comme je vous disais, pour un épisode solo. Déjà parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas posté d'épisode solo sur la chaîne officielle du Halal Love. Sur la chaîne officielle, on dirait qu'il y a une chaîne officieuse, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, c'est pas grave. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est vraiment un épisode que j'avais en tête depuis plusieurs mois. Je dirais depuis novembre en fait, depuis la sortie, depuis l'ouverture du Patreon, parce que ça a été tellement un événement qui m'a bousculé un peu, qui m'a apporté beaucoup, que j'avais très envie de vous partager un petit peu ce que ça avait provoqué en moi. Mais moi, je suis une personne qui aime laisser aussi passer le temps, parce que avec le temps, on a les lunettes qui se désembue un petit peu et on y voit un peu plus clair. Alors ça ne fait que 4 mois, bientôt 5, mais malgré tout, entre le début et 5 mois, il s'est vraiment passé des choses intéressantes et j'avais très envie de vous les partager. Alors, dans le même temps, je pense que vous pourriez vous poser la question de pourquoi parler d'argent sur un podcast qui parle d'amour, et vous auriez bien raison, mais je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi j'ai décidé de parler, on ne parlera pas que d'argent, on va parler d'argent, on va parler de mon rapport à l'argent, de moi, de ma culture. Je pense que ce sera un épisode assez personnel et j'espère franchement que beaucoup d'entre vous pourront s'y retrouver. Je n'ai pas envie de me sentir seule, vous avez bien compris. Je vais aussi parler de Patreon. L'idée, ce n'est pas juste d'en faire la promotion, mais vraiment d'expliquer un peu, encore une fois, l'impact que ça a eu dans ma vie. Et puis, partager avec vous mes différents enseignements. Donc, pourquoi j'ai décidé de faire un podcast qui parle quand même beaucoup d'argent ? La première raison, c'est parce que l'argent, c'est quand même un sujet qui est passionnant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on parle d'argent, on parle jamais vraiment d'argent. On parle de ce qu'il y a derrière l'argent. L'argent, souvent, c'est la partie un peu visible de l'iceberg, mais au fond, il y a un rapport avec le sentiment ou la volonté d'être aimé. L'argent, ça peut dire aussi beaucoup de nos rapports familiaux. Ça dit beaucoup de l'estime qu'on peut avoir de soi. Et moi, je trouve que c'est passionnant parce que comme on n'en parle pas, ça recrée encore plus une tension autour de tout ça qui serait intéressant à mon sens de déconstruire. Alors il y a plein de podcasts qui le font et il y a un podcast qui le fait très bien et que je vous conseille qui s'appelle Thune, T-H-U-N-E, que moi j'écoute très souvent. C'est pas un podcast qui est fait par des femmes de confession musulmane, mais ce que je trouve justement super intéressant, c'est que quand on regarde un podcast comme Thune, on réalise à quel point Allah, il a vraiment mis beaucoup de points communs dans toutes nos humanités et c'est très touchant, vraiment. C'est des personnes qui parlent de leur rapport à l'argent, mais il y a toujours des angles très précis. Il y a des huissiers, il y a des artistes. On va en parler de mon travail d'artiste. Et voilà, je vous le conseille profondément. Mais voilà, moi, la première raison, pour moi, c'était ça. C'est que c'est un sujet qui dit beaucoup. Et vous allez voir, je pense que je vais aussi pas mal me confier dans cet épisode-là. La deuxième raison qui m'a poussé ou qui m'a encouragé, j'ai envie de dire, à aborder ce sujet-là, c'est parce que l'argent, ça constitue quand même l'une des principales causes de séparation au sein des couples. Certaines études disent que c'est même la seconde cause de la séparation. Alors, comme je l'ai dit précédemment, en fait, derrière le sujet de l'argent, il y a beaucoup de choses qui sont derrière, donc c'est jamais que l'argent. Mais tout de même, ça dit quelque chose aux États-Unis. Je crois que la problématique ou les problématiques autour de l'argent constituent entre 20 à 40% des séparations. Donc la fourchette, elle est large, mais quand même, 2 à 4 couples qui se séparent autour de ça, ça mérite qu'on se pose des questions, ça mérite qu'on s'interroge en fait et qu'on détricote notre rapport à l'argent. La troisième raison qui m'a donné envie de faire un sujet sur l'argent, c'est parce que clairement, depuis mon interview avec Citan, c'était l'épisode 12, on a fait un épisode avec Citan qui est coach budgétaire. Moi, ça m'a vraiment, ça m'a bouleversée en fait, enfin bouleversée. Ça peut paraître un peu excessif, mais ça m'a vraiment, ça m'a chamboulée, franchement. Ça m'a chamboulée parce que j'ai réalisé à quel point j'avais beaucoup de choses à détricoter et que je manquais quand même d'une certaine forme de maturité dans ma gestion de la frustration et dans mon suivi financier. Je vous en parlerai un peu plus tard. J'ai pas fini, en gros, de travailler tout ça. Mais ce qui est clair, c'est que moi, cette année, j'ai très, très, très envie de travailler, avoir un rapport plus clair, plus informé sur l'argent et plus précisément sur l'argent en islam. Alors moi, j'ai pas prévu de faire de formation sur ce sujet cette année, mais ce que j'ai très envie de mettre en place, c'est de lire des ouvrages au sujet du rapport à l'argent et de la manière, les meilleures manières finalement d'avoir une meilleure gestion de l'argent. D'ailleurs, si vous avez des ouvrages à me conseiller, n'hésitez pas à me faire un petit email à madina@halallove.fr parce que les ouvrages, j'ai fait mes petites recherches, mais franchement, ce que j'ai vu pour le moment, ça m'a pas beaucoup donné envie parce que les placements dont on parle, bah, c'est pas du tout des placements éthiques. La manière dont on parle de l'argent, moi, ça me parle pas. C'est soit faut faire beaucoup d'argent, soit faut être dans l'abondance. Manifeste l'argent et l'argent viendra à toi. Tout ce qu'on n'aime pas. Et en tout cas, pas cette manifestation dans ce style-là. En tout cas, ça, c'est certain pour moi. Mais voilà, si vous avez des ouvrages un peu plus, j'ai envie de dire, objectifs, factuels, moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc, n'hésitez pas. Je compte regarder aussi des vidéos sur YouTube, sur d'autres plateformes, etc. Et puis, j'aimerais beaucoup me nourrir de deux choses, de deux ressources profondément islamiques. Ben, la première, évidemment, c'est le Qur'an, parce que Allah, il parle beaucoup de notre risque et l'argent fait partie de notre risque. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le risque, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas de confession musulmane et qui écoutent ce podcast, et d'ailleurs, je leur passe un grand coucou, un grand salam, et je leur dis merci de leur belle ouverture d'esprit, machin de moi. Oui, je vous disais, ça y est, j'ai perdu le fil. Pardon. Oui, je vous disais, j'ai très envie de m'imprégner du Coran. Enfin, de m'imprégner. J'ai très envie de lire le Coran, très clairement, mais avec une nouvelle, une nouvelle logique, une nouvelle, un automatisme qui est qu'à chaque fois que je lis des ayahs qui parlent de notre risque, je les note sur mon petit carnet et je peux derrière pouvoir les méditer. Parce que donc, le risque, je n'ai toujours pas dit ce que c'était d'ailleurs, c'est quand même très drôle, le risque c'est les bienfaits qu'Allah nous a promulgués, qu'Allah a fait venir avec nous à notre naissance. Alors ça ne veut pas dire que dès qu'on arrive à la naissance, on a tout sur un plateau d'argent. Moi, je dis toujours que c'est comme une espèce de grosse piñata qu'on a dessus de nous et il faut aller la taper, il faut aller faire les causes pardon, pour que le risque descende sur nous de manière progressive et inchallah jusqu'à la fin de nos jours. Mais j'ai envie d'aller chercher ça parce que à mon sens et pour moi, de toute façon, je pense qu'on sera tous d'accord, en tout cas les croyants qui écoutent, on peut pas avoir une vision juste des choses si on n'a pas les lunettes de l'islam, si on n'a pas l'agrément d'Allah dans ce qu'on fait et dans ce qu'on lit. Donc voilà, j'ai très envie d'avoir des ressources aussi à ce sujet-là, donc à travers le Coran et puis aussi à travers des ouvrages. Je ne sais pas s'il y a des ouvrages qui sont écrits par des auteurs musulmans et qui nous permettent d'en savoir un peu plus sur notre manière de gérer l'argent, sur la manière dont Allah nous demande de voir l'argent, parce que je pense que c'est ça, moi, mon objectif, c'est de transformer ma perception de l'argent. Moi, je pense que j'ai encore trop d'angoisses, clairement, qui sont liées à l'argent. J'ai encore trop de... J'ai une vision de l'argent qui est très liée à, vous savez, cette fameuse phrase « tout travail mérite salaire ». Et en plus, elle est juste, hein, mais elle est vraiment incomplète à bien des égards. Et en fait, quand on est enfant de prolétaire, il faut le dire, cette phrase, elle est ancrée en nous et qu'on est né en France, elle est tellement ancrée en nous que c'est dur de s'en défaire, en fait. Et donc, on a du mal à comprendre que le risque, il vient d'Allah, il ne vient pas de notre employeur. Donc voilà, j'ai très envie de détricoter ça, pardon. Et Inch'Allah, si ça vous intéresse, si vous avez envie d'update durant l'année, eh ben peut-être que je ferai des épisodes dessus. N'hésitez pas à me demander. Mais voilà, moi, c'est clairement l'un de mes objectifs de cette année. Ensuite, pour que vous compreniez bien, encore une fois, l'intérêt de cet épisode, j'avais très envie de vous expliquer comment mon rapport à l'argent il s'est construit et comment il a été très impacté par mes ambitions créatives et par mes dernières missions professionnelles qui sont quand même très liées à des métiers artistiques. C'est là que ça devient très personnel parce que comme beaucoup en fait mon rapport à l'argent il s'est construit je pense dans mon enfance et dans les choses que j'ai pu vivre au sens très large du terme dans mon enfance. J'ai rien vécu de dramatique hein, on s'entend vraiment alhamdoulilah comme beaucoup d'enfants d'immigrés, j'ai été élevée par des parents qui se sont beaucoup donnés pour leurs enfants et qui ont toujours fait le nécessaire pour qu'on ne manque de rien. C'est une phrase qu'on dit souvent en tant qu'enfant d'immigré, je trouve, oui, on n'a jamais manqué de rien. Mais parfois, j'ai l'impression que dans cette phrase-là, on se ment un peu à nous-mêmes dans le sens où, alhamdoulilah, on a manqué de rien, on a toujours eu à manger, etc. Mais quand on a une famille nombreuse, qu'on a un papa qui vient du pays avec des frères et sœurs qu'il faut accompagner dans leur vie, clairement, quand on a encore ses parents, etc., ben en fait, on n'est pas du tout sur juste notre famille, papa, maman et les enfants. On est vraiment sur une famille extrêmement élargie. Et de fait, quand on a un salaire pour pouvoir subvenir aux besoins de toutes ces personnes-là, oui, alhamdoulilah, on a manqué de rien dans le sens où on a toujours eu à manger sur la table, mais on est quand même sur un minimum du minimum qui peut faire naître des frustrations chez certaines personnes. Moi, pour être tout à fait honnête, à l'âge adulte, j'ai eu des frustrations qui ne sont pas énormes, mais cette envie d'acheter beaucoup de vêtements, parce que j'estimais que quand j'étais plus jeune, j'en avais vraiment pas assez. Cette envie, surtout, moi, j'ai eu un vrai rapport, je vous le dis, à l'alimentation. Alors moi, c'était vraiment... ça a été mon tonneau des Danaïdes. Vraiment, c'est ce puits sans fond là que j'arrivais jamais à remplir. Et encore aujourd'hui, honnêtement, j'ai encore des difficultés dans le sens où... voilà, comme beaucoup de personnes, nous, nos parents, c'était vraiment les trois repas par jour. Et alhamdoulilah, c'est déjà énorme. Mais au-delà de ça, après, c'est ponctuel, quoi. Et moi, j'avais très envie, je pense que j'étais gourmande, comme beaucoup d'enfants. Et je rêvais de ces goûters que je voyais passer à la télé. Je rêvais de ces marques auxquelles je n'avais pas forcément accès. Et quand j'ai quitté le domicile familial, moi, il faut savoir que j'ai quitté le domicile familial, j'avais 18 ans, parce que j'ai eu mon bac et j'ai grandi dans une petite ville de 3000 habitants, d'accord ? Donc clairement, quand on veut faire des études supérieures, il faut partir. Et du coup, moi, je suis partie à une heure de chez moi, donc je n'étais pas très loin, j'étais entourée de ma famille, mais tout de même, j'ai eu à gérer mon argent seul, l'argent de la bourse, voilà, je pense que ça parlera à beaucoup de monde aussi. Et clairement, moi, ça a vraiment marqué le besoin de me remplir et d'acheter tout ce à quoi j'avais pas du tout accès. Donc autant vous dire que quand on fait ça, bah, on gère pas très bien son argent, vous vous en doutez bien. Et c'est quelque chose qui m'a suivi pendant de nombreuses années. Et voilà, je vous le dis en toute transparence, c'est pas quelque chose avec lequel j'ai complètement fait la paix. Dans les autres choses qui ont impacté mon rapport à l'argent, bah, c'est aussi mon non-éducation en fait, financière. Moi, personne ne m'a posé en me disant « Ah bah, voilà, Madina, maintenant tu vas avoir ta bourse, voilà comment on gère son argent, il faudrait mettre tant par mois, etc. » Comme beaucoup d'entre nous, hein, je pense, j'ai eu zéro éducation financière et je suis passée de zéro dans les mains à, 300, 400 euros, je ne sais plus vraiment, parce que c'était il y a beaucoup trop longtemps. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ce manque d'éducation financière, ça a beaucoup aussi impacté mon rapport à l'argent parce que je ne savais pas le gérer. Et comme je ne savais pas le gérer, bah, j'ai eu beaucoup d'incidents. Moi, j'ai fini par venir à Paris pour finir mes études. Et sans rentrer dans les détails, je suis arrivée à Paris avec un découvert, mais long comme le bras, quoi, parce que je ne savais pas gérer mon argent. Moi, j'estimais que j'avais une carte bleue, c'était OK, que le découvert faisait partie de mon salaire, n'importe quoi. Et en plus, c'est vraiment c'est très grave parce que quand même, on est sur de la riba. Donc, je vous prie de croire que je vous partage ça, pas juste pour qu'on passe un bon moment et faire des blagues dessus, mais c'est vraiment dans un souci de transparence et surtout pour qu'on se dise des choses que être transparent ou pas transparent, franchement, ça sert pas à grand chose. Mais si ça nous permet de faire face à nos réalités pour mieux se réparer, et ben alors, Inch'Allah, bismillah, avec Aspatala, agréer la démarche. Amin. Donc voilà, j'ai pas reçu d'éducation financière. J'avais pas mal de frustrations que je cherchais à combler. Et puis, mon rapport à l'argent s'est encore transformé quand je suis arrivée en Master 2, donc c'était ma dernière année d'études, où là, je suis arrivée à Dauphine. Donc pour ceux qui ne savent pas, Dauphine, c'est un grand établissement parisien qui, à l'époque en tout cas, était public, mais se comportait un peu comme une école de commerce. Donc beaucoup de profils très tournés vers la finance, le marketing, etc. Et quand je suis arrivée à Dauphine, mais vraiment les amis, je me suis pris une claque, mais incroyable, dans le sens où moi, je pensais être quelqu'un d'assez carriériste au sens de je me donne les moyens pour réussir, etc. Voilà, j'ai pas peur de travailler dur, etc. Et puis je demande, pas du tout. Je me suis retrouvée face à des personnes, enfin, moi quand on était en Master 2 en alternance, donc en fait il fallait trouver un apprentissage, et quand on nous demandait combien il fallait demander, moi j'étais en mode, moi si j'ai 300, 400 euros, c'est bien, hein. Faut bien comprendre, hein, parce qu'il y a peut-être des personnes qui m'écoutent et qui sont bien plus jeunes, je sais qu'aujourd'hui les conventions elles ont changé, qu'il y en a, je crois que c'est des fois, parfois c'est 80% du SMIC, etc. Moi c'était pas du tout comme ça. Je ne suis pas la plus à plaindre, parce que la génération qui m'a précédée, à eux, parfois, ils faisaient des stages qui n'étaient vraiment pas du tout rémunérés. Mais nous, justement, on était dans cet entre-deux-là. Donc, les stages, parfois, c'était 400 euros, quoi. Et donc, moi, je me disais, si j'ai 500 euros, ça va. Et mes nouveaux camarades m'ont regardé, genre, mais Madina, mais pas du tout, quoi. Moi, en bas de 1500 euros, j'y vais pas. Et moi, j'étais en mode, quoi, t'y vas pas? Parce que moi, j'y vais carrément. 1500 euros, pour moi, c'était... En fait, je vais vous dire quelque chose. 1500 euros, c'était plus que ce que mon père touchait. Et en fait, moi, dans un souci de loyauté, je me voyais pas gagner plus que mon père. Alors, entre 500 et 1500 euros, il y a une marge. Mais dans tous les cas, moi, jamais de ma vie, j'aurais demandé plus de 1000 euros. Parce que je me disais, en fait, comme notre curseur, ou nos modèles, ce sont ceux qui nous entourent. D'où l'importance de parfois aussi élargir son environnement pour pouvoir comprendre qu'il y a un monde qui est plus large que le nôtre. Et en tout cas, moi, quand j'ai commencé, mon monde, ma référence, c'est mes parents, c'est mon papa qui a travaillé vraiment jusqu'à la retraite, alhamdoulilah pour lui. Et lui, à la fin de sa vie, il a peut-être eu 1100 euros, 1200 euros. Donc moi, dans un souci de loyauté, j'avais peur de demander plus. Et c'est là aussi que j'ai réalisé à quel point mon rapport à l'argent n'était pas du tout juste en fait, parce que papa et moi, on n'a pas fait les mêmes études, on n'a pas eu les mêmes jobs, donc ça ne sert à rien de vouloir me comparer à une personne qui n'a pas du tout la même histoire que moi, entre guillemets, sous prétexte que c'est mon papa. Mais je pense que c'est aussi un problème que rencontrent beaucoup de personnes qui font ce qu'on appelle des transfuges de classe. C'est pas facile à dire. C'est quand on change de classe sociale, on évolue. Moi, quand j'ai eu mon premier CDI, j'étais cadre supérieur. Et donc, forcément, on change d'univers. Et on a vraiment ce truc de, comme je change le monde, j'ai pas envie non plus d'abandonner ma famille, etc. Donc, on reste bloqué dans son esprit sur certaines choses. Et en fait, on se rend pas compte à quel point ce sont des soucis que l'on se met et que vraiment on est injuste avec nous-mêmes parce que on n'est pas on s'empêche quelque part d'aller aussi loin qu'on le pourrait. Donc clairement tout ça a beaucoup beaucoup impacté mon rapport à l'argent, mais mon rapport à la monnaie a pris un nouveau tournant lorsque j'ai quitté le monde du salariat justement pour une activité dite très artistique puisque c'est le métier d'autrice. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y a quelques années maintenant, j'ai lâché mon job pour écrire des romans jeunesse. Il y a deux ouvrages qui sont sortis, Naïba, je sais tout, tome 1, tome 2. Le troisième, il est chez la maison d'édition. Il est chez la maison d'édition, je le répète pour les enfants qui me harcèlent et qui ont bien raison d'ailleurs. Il est chez Nofi Édition. Le manuscrit a été validé et on espère pouvoir commencer à travailler tous ensemble avec Licia, que j'embrasse très fort si elle passe par là. Je passe un grand salam à partir du mois de juin, Inch'Allah. Donc moi, quand j'ai voulu me lancer dans le métier d'auteur ou d'autrice, autant vous dire que je ne connaissais strictement rien au monde de l'édition. Moi, j'avais l'impression que j'allais arriver, que comme il n'y avait pas beaucoup de personnages noirs, et moi, c'était une grande problématique pour moi, et pour moi, c'était évident que je n'étais pas la seule à avoir cette problématique-là. Bon, voilà, ça allait cartonner, on allait vendre plein de livres, et puis c'est tout, quoi. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça, vous en doutez bien. Mais voilà, moi, je suis arrivée avec beaucoup de candeur, de naïveté, et immédiatement, j'ai commencé à regarder comment on contacte une maison d'édition, combien un auteur est rémunéré. Et alors là, j'ai vu à quel point... on déchante très vite, en fait. On déchante très vite parce que, pour la petite histoire, je ne vais pas vous donner trop de chiffres, mais je trouve que c'est hyper important de les avoir parce qu'on est trop peu à avoir des infos précises sur le monde de l'édition. Et il faut les avoir en tête pour vraiment comprendre à quel point c'est difficile et à quel point c'est un emploi qui est précaire. Les auteurs, quand ils sont dans des maisons d'édition classiques, on va dire, elles touchent en moyenne 10% du montant du livre. Donc sur un livre jeunesse qui coûte 8 euros, l'auteur va repartir avec 80 centimes. D'accord ? 80 centimes. La personne qui touche le moins que l'auteur, c'est l'État. D'accord ? C'est vous dire à quel point on touche peu. Et quand on est auto-édité, c'est-à-dire quand on décide de ne pas passer par des maisons d'édition et de s'éditer soi-même, alors effectivement, votre pourcentage, il va un peu plus augmenter. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la chaîne de l'édition, elle est très longue avec énormément de métiers. D'accord ? Vous avez l'auteur, vous avez la maison d'édition, l'imprimeur. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Vous avez le diffuseur. Le diffuseur, je crois que c'est le commercial en fait qui va vendre, clairement. Je schématise un petit peu, mais pour que ce soit plus simple, le diffuseur, c'est le commercial qui va vendre vos livres au point de vente. Vous avez les points de vente. Vous avez le distributeur, lui, c'est le logisticien qui va pouvoir prendre vos bouquins et les ramener dans différents points de vente. Ça fait beaucoup de monde à payer, on est d'accord. Donc forcément, l'auteur, sa part, elle est aussi divisée. Quand on est auto-édité, évidemment, on se retire la maison d'édition, on se retire le diffuseur dont je vous ai parlé, le distributeur dont je vous ai parlé. Donc on peut dire, c'est super, je passe de 10% à 40%. Moi, c'était ma logique, sauf que visiblement, je n'ai pas fait S. Mais non, c'est surtout qu'en fait, je ne connaissais pas du tout ce monde-là. Et ce que je n'avais pas compris, c'est que déjà, quand on est auto-édité, les points de vente, ils ne vous veulent pas, très clairement. Ils snobent un petit peu parce que c'est vrai, la plupart des ouvrages qui sont auto-édités, en termes de qualité de papier, c'est pas terrible. Les dessins, c'est pas terrible. Là, je parle du monde de jeunesse. Donc forcément, ils veulent pas trop de vous. Et donc clairement, vous n'allez pas pouvoir vendre beaucoup de livres parce qu'en fait, vous ne serez pas beaucoup diffusé. Donc en fait, on est vraiment dans une réalité où qu'on soit dans l'un ou dans l'autre, c'est très dur d'être auteur. Et très clairement, ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'on soit un auteur auto-édité ou qu'on soit un auteur qui est édité par une maison d'édition, être auteur, c'est prendre la décision consciente que l'on va se brader. Clairement. Être auteur, c'est accepter que votre ratio temps passé versus rémunération sera extrêmement mauvais et que la seule manière de revenir à l'équilibre, bah, c'est de vendre beaucoup. Genre vraiment beaucoup. Genre des dizaines de milliers d'exemplaires. Et ça, c'est quasiment impossible que l'on soit auteur à auto-éditer ou auteur édité par une maison d'édition. Pourquoi c'est impossible ? Parce que, encore une fois, quand vous êtes auto-édité, ça je l'expliquais, vous avez très peu de points de vente. Et donc, jamais la FNAC va vous dire « Ah oui, alors moi, la FNAC de Créteil, je prends un exemple, je te prends 1000 exemplaires. » Ça n'arrive jamais. Ce qui fait qu'un auteur vend beaucoup, c'est qu'il y a des centaines de milliers de points de vente en France. En France, on aime quand même beaucoup le livre. Et que chaque point de vente va vendre 3, 4, 10 ouvrages. D'accord ? Mais jamais un point de vente va vous en vendre 1000, ça n'existe pas. Donc quand vous êtes auto-édité, là-dessus vous êtes limité. Et puis je rajoute que quand vous êtes auto-édité, vous avez quand même tous les frais qui sont à votre charge. L'illustratrice, si vous êtes en roman jeunesse, moi Alicia, enfin voilà, on n'avait pas de, elle n'était pas au prorata, j'ai payé les illustrations. L'imprimeur c'est super cher parce qu'en fait quand on est Hachette et que on imprime je ne sais combien d'ouvrages à l'année, on se doute bien que l'imprimeur va vous faire un tarif. Moi j'arrivais avec mes 1000 exemplaires. Bon, en fait, mon imprimeur, ça passait de 10% quand c'est une maison d'édition qui travaille avec lui, 10% du livre, à 30% du livre. Bon, on se doute que ce qui reste à la fin, c'est pas grand-chose. Et quand on est un auteur classique, ce qu'il faut savoir, c'est que encore une fois, vous allez avoir 10% de vos ouvrages qui sont rémunérés, mais que en fait, en France, les auteurs, ils vendent très peu. Un ouvrage qui se vend bien, un premier ouvrage, c'est 600 exemplaires. Et oui, les amis. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour la petite histoire, il y a 200 livres qui sortent tous les jours en France. 200 livres. 200 livres, donc ça compte les nouveautés, ça compte les éditions de poche, ça compte les éditions collector. C'est énorme. Donc en fait, si vous êtes, sur le haut de l'affiche, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, ça c'est vraiment quand vous êtes un grand quelqu'un, comme on dit, bah, c'est énorme. Et après, c'est fini. Vous avez 6 semaines sur 52 pour briller. Donc, pour atteindre les 20 000 exemplaires, ce n'est pas évident. Et souvent, ce que les maisons d'édition font, c'est qu'elles donnent elles s'engagent à donner un minimum à l'auteur qui ne sera pas remboursé. Et une fois que ce minimum-là sera atteint, alors là, on pourra dire, bon, à partir de tes 1 500 euros, parce que c'est quand même souvent comme ça que ça se passe, eh bien, tu pourras toucher 10% de ton livre à 8 euros, je répète. Donc, vous voyez... Moi, il y a une métaphore que j'aime beaucoup pour expliquer le métier d'écrivain. Pour moi, être écrivain, ça revient à amener tous les ingrédients nécessaires pour fabriquer le pain, mais de repartir avec les miettes. C'est vraiment ça. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un travail, dans un domaine où vous gagnez 1500 euros au mieux, pour un travail qui a duré 3, 6 mois, parfois plus, ça impacte profondément votre rapport à l'argent. Mais surtout, j'ai envie de dire, ça a des conséquences sur votre valeur personnelle. Parce qu'en fait, votre travail, il vaut peu. Et votre travail dans des métiers artistiques, c'est nous. On est d'accord ? Parce qu'en fait, c'est notre plume, c'est notre voix pour les personnes qui sont artistes, musiciens, j'en sais rien. Donc, si notre travail, c'est nous, notre rémunération qui est faible, ça a aussi un impact sur notre estime de soi qui devient aussi très faible. Le parallèle entre la valeur de notre ouvrage et notre valeur personnelle, en fait, il se fait de manière naturelle. Organique et c'est extrêmement difficile à maîtriser et c'est profondément dangereux. Et en travaillant cet épisode, je me suis dit, mais encore une fois, alhamdoulilah, à la ni'mat de l'islam, c'est-à-dire que vraiment on remercie Allah pour le bienfait et pour le cadeau qu'il nous a fait d'être musulman, parce qu'en fait, être musulman, c'est se rappeler justement que notre valeur, elle n'est pas du tout dans notre travail. C'est juste qu'on vit dans un monde où si on ne s'écoute pas, si on n'écoute pas notre fitra, notre foi, on va vraiment effectivement finir par faire ce parallèle. Travail égale moi, peu de rémunération égale peu d'estime. Mais la réalité, c'est que quand on est musulman, on le sait qu'on a une grande valeur parce que c'est Allah qui nous a créés. C'est le roi, c'est celui qui peut tout, c'est celui qui sait tout qui nous a créés. Donc on ne vaut pas rien. Mais il faut être capable de repartir vers cette vision-là. Et vraiment, je me suis dit, c'est fou parce que c'est un travail de titan de se rappeler ce genre de choses, et ça ne devrait pas. Mais peut-être que ça dit beaucoup de moi aussi, hein, et de mon travail, du travail que j'ai à faire sur mon cœur et sur ma foi. Allahu a'lam. Donc, pour revenir au sujet du jour, lorsqu'on n'est pas rémunéré sur une activité, ou peu, pas rémunéré, c'est faux, mais lorsqu'on est peu rémunéré sur une activité qui demande autant de temps et d'investissement qu'un travail à temps plein, c'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est qu'on finit par être désaligné. C'est-à-dire qu'on sent bien au fond de nous qu'il y a une incohérence. On travaille, on s'investit, mais à côté de ça, on ne se rémunère pas. Et je dis bien, on ne se rémunère pas parce qu'en fait, c'est un choix de vie. C'est-à-dire que quand on choisit, personne ne vient nous voir et nous force à être auteur. Moi, quand j'ai décidé d'arrêter d'écrire des livres, beaucoup de personnes m'ont contacté. Ah non, tu peux pas arrêter. Ah non, 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 c'est pas possible, tu peux pas arrêter. Et en fait, les gens vont dire tu peux pas arrêter. Bah si, tu le peux. En fait, la réalité, c'est que c'est un choix de vie et c'est un choix de continuer dans cette vie-là ou de ne pas le faire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, j'avais plus du tout envie de continuer parce que je me sentais profondément désalignée. J'étais fatiguée et surtout quand je désaligné, c'est parce que je sentais que c'était pas logique de travailler autant et de récolter aussi peu. C'est-à-dire que l'être humain sent quand il y a des choses qui ne vont pas. Là, on parle pas de bénévolat où on fait des choses pour Allah et on fait des choses qui prennent un certain nombre d'heures dans la semaine, voire dans le mois. Là, on était sur un travail quotidien. Et le risque que l'on prend à être désaligné aussi longtemps, c'est que à tout moment, le corps, il finit par nous lâcher. Ça, c'est une réalité. Bonjour le burn-out. Où on finit par abandonner. Moi, ça a été l'option, le chemin que j'ai pris, sans regret, honnêtement. Et la troisième chose, c'est qu'on peut finir par en vouloir aux autres de ne pas nous soutenir dans nos projets. Alors que, comme je le disais précédemment, la réalité, c'est que c'est un choix de vie qu'on a choisi. Donc, moi, le fait d'avoir été propulser un peu quelque part dans le métier d'auteur et d'éditeur aussi, parce que quand on est auto-édité, on est à la fois artiste et on doit aussi tenir les cordons de la bourse, donc on est à la fois entrepreneur et on est à la fois auteur. Ça m'a fait du mal dans mon rapport à l'argent, ça m'a fait du mal dans mon estime de moi-même, mais à la fin de cette expérience, je me suis dit plus jamais. C'est là que j'ai réalisé à quel point c'était pas normal et à quel point il fallait que je commence à détricoter mon rapport à tout ça, mon rapport déjà au travail. Moi, j'ai plus travaillé mon rapport au travail que mon rapport à l'argent, pour être très honnête, jusqu'à présent en tout cas. Mais ça m'a beaucoup aidé à réaliser qu'il fallait travailler tout ça, parce que sinon, j'allais pas m'en sortir et que je prenais un chemin qui n'était pas sain. Donc, quand j'ai repris une nouvelle activité, c'est pareil, encore à mi-chemin finalement entre l'artistique et l'entrepreneuriat, qui est le podcast. J'ai commencé sur la base du bénévolat, on est d'accord, personne ne m'a forcé à ouvrir le podcast Halal Love. Et puis, j'ai vu que ça me prenait du temps. Donc, c'est reposer la question de qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sentais ce désalignement arriver? C'est-à-dire qu'il est arrivé, même en fait, on peut dire clairement les choses. Le désalignement, il est arrivé, je me suis dit, tu sais ce que ça fait, tu sais ce que ça provoque. Il n'y a plus d'autre option là que de dire aux personnes que tu as besoin d'aide. Et cette aide-là, elle est passée par le Patreon, que j'ai ouvert du coup en novembre dernier. Et c'est un peu la dernière partie de ma conversation avec vous, et répondre un peu à cette question, est-ce qu'ouvrir un Patreon, ça a vraiment été une bonne décision? Alors malheureusement, il est un peu tôt là pour avoir une réponse tranchée, fermée, oui, non, parce que ça fait à peine 5 mois, bientôt 5 mois. En revanche, moi j'ai très envie de vous emmener avec moi dans les coulisses des chiffres qu'a engendré le Patreon, même si c'est hyper important de garder à l'esprit qu'un chiffre seul, ça ne veut rien dire, parce que on n'a pas les charges sociales, on n'a pas parfois les parts que se prennent les plateformes. Il y a plein de choses qui sont pas dites et qui sont pas claires, mais je vais essayer de vous clarifier au mieux le chemin malgré tout. J'avais aussi envie de vous emmener avec moi dans les réflexions, notamment une que m'a poussée avec force l'ouverture de ce Patreon et qui aujourd'hui m'accompagne et me sert beaucoup. Donc aujourd'hui, au moment où j'enregistre, on est fin février et en termes de rémunération, parce qu'on va commencer par ça, j'arrive à une rémunération qui avoisine les 200 euros par mois. Alors dans les 200 euros par mois, j'enlève la part gigantesque de Patreon et ça, peut-être que j'en reparlerai, peut-être que j'en reparlerai pas, mais Patreon, c'est un peu la seule plateforme qui existe pour les créateurs de contenu, qui est faite pour les créateurs de contenu. Mais je trouve qu'elle n'est pas du tout adaptée pour les créateurs de contenu français, parce que le fait qu'ils soient aux États-Unis, etc., fait que le changement de monnaie impacte et les contributeurs Patreon et les créateurs de contenu. Mais bon, ça, c'est un autre sujet pour une prochaine fois. Mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu, quand je vous dis qu'il y a une part qui est monumentale, je le dis, pour les personnes qui souhaitent faire un Patreon, etc., parce que moi, je n'ai jamais eu l'information et je trouve que c'est vraiment dommage, ça fait 20% en moins. Dans ce que vous touchez, il y a 20% de Patreon au sens très large du terme, parce que je crois qu'ils se prennent une commission de 10%, mais avec tous les frais bancaires, etc., c'est 20% de votre rémunération que vous ne voyez jamais passer. Voilà, je pose ça là pour les personnes que ça intéresse et j'espère que ça éclairera votre lanterne. Donc comme je vous disais, moi j'avoisine les 200 euros par mois via Patreon, en plus des contributions ponctuelles sur PayPal. Alors pour continuer dans les chiffres, aujourd'hui il y a plus de 60 contributeurs qui sont sur Patreon, 60 patrons qui m'accompagnent et qui aident Halal Love à s'émanciper, à se pérenniser, et ça c'est trop bien, vraiment, pardon, là j'ai vraiment le vocabulaire d'une ado de 12 ans, c'est trop bien, mais c'est vrai, c'est tellement beau en fait de voir à quel point ça fait du bien en fait de ne pas être seule, c'est vraiment ça, c'est vraiment, ça fait tellement du bien que je pourrais pas l'expliciter, mais je pense que chacun d'entre nous comprend à quel point, quand on fait des métiers comme ça, quand on fait des métiers qui sont difficiles, parce que bah, moi, je suis quand même souvent toute seule, le fait d'avoir des soutiens, qu'ils soient financiers ou à travers des emails, à travers des doigts, celle-ci, je sais pas si je les reçois, parce qu'il n'y a que Allah qui est dans vos cœurs à ce moment-là et qui est avec vous, mais je ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup votre amour et je vous en remercie infiniment. Donc juste pour la petite histoire, 60 contributeurs en quasiment 5 mois, franchement c'est super, c'est vraiment c'est très encourageant, c'est un super début déjà parce que moi je communique finalement très peu sur le Patreon et je sais que je devrais le faire plus, mais aussi parce que je regarde par rapport à d'autres créateurs de contenu, notamment d'autres podcasteurs, on est franchement sur la moyenne plutôt haute, donc alhamdoulilah, j'espère que vous serez heureux, chers auditeurs, d'entendre ça parce que c'est beau, moi je trouve, de voir à quel point la communauté musulmane, elle est là, elle est présente, elle soutient, elle réalise à quel point le contenu c'est fondamental si on veut s'instruire, si on veut être fort. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais je suis tellement heureuse. L'un des premiers podcasts en France, c'est le podcast sur Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est vraiment trop bien, c'est magnifique. C'est la force d'Allah qui nous montre que, avec le temps et des douras, il est avec nous et il est là pour montrer le chemin de la vérité. Donc, je suis très honorée et je remercie à ce partenaire-là de m'aider à m'inscrire dans ce sentier. En tout cas, je l'espère en tout cas très modestement et je suis très très reconnaissante notamment aux contributeurs Patreon et aux contributeurs PayPal de m'aider à tracer ce chemin en fait. Je le trace vraiment avec vous et je vous remercie vraiment pour votre contribution qui m'aide profondément. Je vous l'ai dit, je n'oublie pas les personnes aussi qui ne contribuent pas mais qui sont là, qui m'envoient des emails, qui soutiennent, qui écoutaient en fait, même si on ne s'est jamais parlé, le fait d'écouter, ça aide profondément le podcast et moi ça m'enrichit aussi. Donc je vous remercie chacun et chacune d'entre vous. Et l'une des réflexions que m'a ouvert le fait de créer le Patreon, c'est que ça m'a poussée à demander de l'aide, comme je vous l'ai dit. Et comme beaucoup de personnes, pour moi, demander de l'aide, c'était un gros aveu de faiblesse, mais vraiment. Alors qu'en réalité, Allah il m'a montré que demander de l'aide, c'est un aveu d'humanité. C'est une reconnaissance auprès d'Allah que sans lui, moi, je ne peux rien. C'est une reconnaissance que bah, seul, on ne va jamais bien loin. C'est une réalité. Et en fait, demander de l'aide, ça m'a permis de réaliser que j'ai besoin d'Allah plus que jamais et que j'ai besoin des autres aussi. Demander de l'aide et voir le résultat, ça m'a vraiment permis de palper presque du doigt une réalité, c'est que vraiment, et ça revient un peu à ce que je disais en début de conversation entre guillemets avec vous, c'est que ma rémunération, elle est vraiment dans les mains d'Allah, subhanallah, c'est lui qui donne. C'est-à-dire que parfois on a beau faire 2 heures autour d'une communication incroyable, etc., il ne se passe rien, il ne se passera rien. Il va se passer très peu de choses. Et puis parfois, on n'a pas le temps de travailler comme on le voudrait parce qu'on doit aider nos parents, on doit aider quelqu'un. Et là, Allah, il nous ouvre le sentier parce qu'il voit à quel point on a fait l'effort, on avait envie, mais on a préféré être là pour notre frère ou notre sœur en Allah. Et ça, c'est trop, trop beau. Donc, je suis très, très heureuse d'avoir ouvert ce patron parce que ça m'a permis de comprendre cette réalité-là. Et ça m'a aussi permis, à travers les contributions, de créer un socle, en fait, qui permet de ne pas avoir à me poser la question sur les dépenses récurrentes, de ne plus avoir à me poser la question sur les dépenses récurrentes parce que je sais qu'elles sont sécurisées. Et puis même, en fait, de voir votre engouement, moi, ça m'aide profondément. C'est un socle, en fait, sur lequel je m'appuie pour pouvoir aller chercher l'étape d'au-dessus, en fait, pour aller chercher d'autres formes de rémunération, pour avoir du temps de cerveau disponible pour aller créer d'autres projets qui, j'espère, vous plairont et sur lesquels on travaille beaucoup. Et ça me permet de voir, effectivement, c'est quoi la prochaine marche. Quand je suis trop près du sol, moi, je ne peux pas voir tout ça. Mais quand je peux m'appuyer sur vous, en fait, ensemble, c'est vraiment ce truc de... seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Je crois que c'est une citation de Nelson Mandela et je la trouve magnifique parce que vous êtes vraiment la réalité de cette situation, Vous êtes vraiment la réalité de cette citation et pour ça, je vous en remercie énormément. Barakallahu fikoum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense grandement et qu'il mette la baraka dans vos vies, dans vos familles et qu'il ajoute vos contributions, vos écoutes, votre amour dans la balance des bonnes actions, Inch'Allah Ta'ala. Aujourd'hui, grâce au risque qu'Allah me confie à travers vos contributions, je continue de travailler au mieux pour, je l'espère, vous fournir des épisodes qui vous plaisent, des épisodes qui, je l'espère, sont exigeants. Et je remercie vraiment Allah Ta'ala pour votre présence. Et je le remercie de m'avoir permis de réaliser à quel point... Halal Love, c'est vraiment une aventure qui est plus grande que moi. Elle nous concerne, nous, elle est plus grande que nous. Mais en tout cas, clairement, je ne suis pas toute seule à bord. Et on espère vraiment qu'avec cette émission, on continuera de satisfaire notre créateur et qu'on continuera d'apprendre dans la joie, la foi et la bonne humeur de nouvelles choses sur le mariage, sur l'islam, sur notre foi. Inch'Allah Ta'ala. Donc, je vous ai fait cet épisode pour vous expliquer à quel point moi, mon travail sur mon rapport à l'argent, il va continuer, mais que ce podcast, vos contributions, vos actions, ça a constitué une étape charnière dans ma vie. Et j'avais très envie de vous dire merci pour ça. Voilà. Pour les personnes qui souhaiteraient découvrir un épisode Patreon, sachez que c'est tout à fait possible. J'ai mis en ligne la semaine dernière un épisode qui est normalement réservé aux contributeurs Patreon. J'espère qu'il vous plaira et j'espère qu'il vous donnera envie de nous rejoindre dans cette très 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 belle aventure. Et puis pour les personnes qui souhaitent contribuer de manière ponctuelle, parce que je le répète ou plutôt je le reprécise, Patreon c'est un abonnement récurrent, c'est une contribution récurrente de 5 euros, alors que vous pouvez tout à fait, si vous le souhaitez, faire un don ponctuel, et ça c'est via le PayPal. Évidemment, je vous donnerai toutes les informations dans le descriptif de l'épisode. Je vous retiens pas plus, je vous remercie sincèrement pour votre écoute, pour votre soutien, pour votre bonne humeur, pour vos emails auxquels vraiment j'essaye de répondre. Je pense que j'ai répondu à quasiment tout le monde, ou sinon c'est en cours. Mais voilà, si vous souhaitez échanger avec moi, je suis tout à fait disponible et disposée à le faire, ce serait grand plaisir. Là aussi, je vous mettrai mes informations. N'oubliez pas, très important, de vous inscrire à ma newsletter. J'essaye d'envoyer 2 newsletters par mois, au moins une, ça c'est sûr. Mais sinon, j'aimerais bien plutôt 2, mais de manière récurrente. Et c'est un format qui est différent, c'est un format qui est plus personnel. Et moi, je prends énormément de plaisir à écrire les newsletters. Je les écris un peu comme des espèces de... la fille s'enflamme, mais j'ai l'impression de dire presque comme des poèmes. En tout cas, j'aime beaucoup écrire ces newsletters-là. Je pense que c'est une des choses que je préfère le plus avec ce podcast. D'ailleurs, je vous partage une anecdote assez personnelle, mais on parlait hier avec mon mari de nos travails et il me disait « Toi, ce serait quoi le travail de tes rêves ?» Et je lui ai dit « Je crois que pour le moment, j'y suis. » Donc, alhamdoulilah, vraiment, j'y suis. Et encore une fois, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense grandement de m'aider à faire quelque chose que j'aime autant. Je vous retiens pas plus. Je vous souhaite une magnifique semaine. Prenez bien soin de vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala prenne bien soin de vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Halal Love. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. Je suis Madina, votre hôte et sœur en Allah, et je vous remercie de votre écoute, de votre soutien au quotidien. Halal Love est un podcast façonné avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en témoigner tout autant,
je vous offre trois possibilités qui ont l'élégance de pouvoir se cumuler. La première, laissez le nombre d'étoiles qu'il vous plaira sur Apple Podcast. Cela aide énormément le podcast à être référencé, et n'ayant pas de réseaux sociaux, c'est la seule manière de le rendre visible en ligne, de porter encore plus loin le message d'amour en Allah, Inch'Allah. Deuxième option, vous pouvez soutenir financièrement le podcast en souscrivant à mon Patreon. Pour 5€ par mois, vous aurez accès à un mini-épisode supplémentaire, mais surtout, surtout, vous aidez considérablement le podcast à perdurer. Vous valorisez une manière d'aimer qu'Allah agrée, et Inch'Allah, vous en serez récompensé. Pour plus d'informations, un lien est accessible dans le descriptif de l'épisode. Enfin, dernière option, abonnez-vous à ma newsletter. Une semaine sur deux, je vous partage des réflexions plus personnelles, des ressources sur l'amour ou sur le mariage. Le lien pour vous abonner est également disponible dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité et votre confiance et je terminerai en citant notre cher et tendre Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. Si j'agis bien, soutenez-moi et si je m'égare, remettez-moi dans le droit chemin. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines, Charles. D'ici là, prenez soin de vous et peace and halal love sur vous.
Tickling your boss's hand is not appropriate. Shaking it is. Eating a bucket of KFC at your desk is not appropriate. Eating the new KFC lunch meal deal is. It's a twister wrap, crisps and drink from $5.49. Workplace appropriate for when finger licking is not. Weekdays until 3 p.m. In-store at participating restaurants only. See kfc.co.uk for full T's and C's.